J'aimerais de vous partager ce matin, ça s'intitule « Connaissez-vous la puissance de l'amour dans la vérité? » Si vous avez votre Bible avec vous, je vais vous inviter de tourner dans Éphésiens, le chapitre 3, et on va lire quelques versets à partir... Le premier passage, en fait, que j'aimerais de lire avec vous, un passage que vous connaissez bien, c'est Jean 3,16. Et on va juste... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse lire aussi dans Éphésiens, le chapitre 3. Et je crois qu'on l'a ici. Vous pouvez suivre dans votre Bible ou vous pouvez suivre sur l'écran. Amen. Je vais tourner moi aussi. Et ça nous dit ceci, ça dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et oui, Seigneur, je prie que tu bénis ta parole ce matin, que tu la rendes vivante à nos cœurs, que tu parles à chacun de nous, Seigneur, à travers ta parole. Je prie que tu m'aides à la partager comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire, pour ton honneur, pour l'édification de ton Église, pour l'avancement de ton royaume, c'est ma prière, Seigneur. Et je te remercie à l'avance de ce que tu vas faire dans nos cœurs ce matin, pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu et de la relation qui existe entre l'amour, la vérité et un soldat de Jésus-Christ. Ou un disciple de Jésus-Christ. Et comme que je vous partageais la dernière fois que j'étais ici, le thème que Dieu a déposé sur mon cœur pour l'année 2023, c'est le thème « Sois un bon soldat de Jésus-Christ ». Et je crois sincèrement, vous savez, que Jésus appelle son Église à devenir des bons soldats de Jésus-Christ pour notre génération qui a beaucoup besoin d'espoir, de lumière, d'amour, de vérité. Amen. Je crois vraiment que notre monde a besoin, plus que n'importe quoi d'autre, vous savez, de bons soldats de Jésus-Christ, de bons disciples de Jésus-Christ. Et je crois que notre monde dans lequel nous vivons et dans la direction que nous allons, ça va ressembler de plus en plus à un champ de bataille pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Nous allons rencontrer de plus en plus d'opposition et je crois que vous pouvez dire amen à ça, on s'en va vraiment dans cette direction-là. Et le Seigneur nous appelle à être des bons soldats pour lui dans notre génération, pour faire connaître son amour et sa grâce. Et vous savez, parfois nous pensons qu'un bon soldat, ça doit être une personne qui est « tough », hein? On pourrait dire qui est endurcie, là, qui est solide. Des fois, on peut penser que ça peut être quelqu'un, vous savez, qui a plus ou moins de sentiments, là, tu sais, qui est « stoïque », on vous dit, hein? Des fois, on pense que c'est ça qui fait les meilleurs soldats. Et souvent, la formation qu'on donne à des soldats, ça vise de développer ce côté-là, ça a développé l'endurance. Hein? Et vous savez, il y a une place pour ce genre de formation-là. Et je crois que Dieu aussi, il permet des choses dans notre vie pour développer notre endurance, développer notre résistance et notre caractère. Et je peux vous dire que j'en ai vécu quelques-unes aussi. Tu sais. Et je remercie le Seigneur. Mais est-ce que c'est cette formation-là de développer l'endurance avec qui forme les meilleurs soldats, les soldats les plus engagés pour leur cause? Est-ce que c'est la manière que Dieu, la seule manière que Dieu nous prépare pour être des bons soldats de Jésus-Christ, développer notre endurance? Qu'est-ce que vous penseriez si Dieu produirait beaucoup d'amour dans notre cœur pour la vérité, dans la vérité? Selon vous, vous savez, je vous demanderai la question, je sais qu'il y en a qui ont déjà été dans l'armée ici, là, tu sais, mais selon vous, c'est quoi l'arme la plus puissante d'une armée? Est-ce que c'est son artillerie, ses armements, ses avions, ses bombes, ses bateaux, tu sais? Ou est-ce que c'est l'endurance des soldats qui sont dans l'armée? Ou est-ce que c'est la passion, la ferveur, l'amour qu'il y a dans le cœur des soldats qui sont engagés dans cette armée-là? Vous avez probablement vu des films de Liam Neeson, Taken 1, Taken 2, probablement qu'il y en a qui, hein, vous avez vu, ou des films de Denzel Washington, John Q, ou Mel Gibson, Le Patriote. Hein? Et vous savez, dans ces films-là, on voit que ces hommes-là ont démontré beaucoup de courage, puis qu'ils ont fait des exploits. Hein? Puis je sais que ces films-là sont arrangés avec le gars des vues, là, comprenez-moi bien, là, tu sais. Mais dans ces histoires, vous savez qu'on voit qu'est-ce qui a poussé ces hommes-là à faire des grandes choses comme ils ont fait, des exploits, d'aller au-delà de leurs limites. Hein? Est-ce que c'était leur caractère dur et sans émotion, puis c'était des toughs sans amour? Ou est-ce que c'était leur grand amour qu'ils avaient pour leurs enfants, pour leurs épouses, pour leur famille, pour leur pays, pour la justice? Hein? Qu'est-ce qui a donné la force aux premiers disciples, Pierre, Jean, Jacques et tous les premiers disciples, Étienne et Apôtre? Qu'est-ce qui leur a donné la force, le courage, vous savez, la détermination de risquer leur vie, même de donner leur vie pour la cause de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui les a amenés si loin que ça? C'est l'amour qu'ils avaient dans leur cœur pour leur sauveur et pour leur prochain, pour leur famille, pour leur communauté, pour où ils étaient. Et ce matin, je veux vous parler de la puissance de l'amour dans la vérité et de l'importance de l'amour et de la vérité dans le cœur d'un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que je crois que c'est l'arme la plus puissante que Dieu possède dans son arsenal pour combattre le voleur qui est en train de voler dans notre monde, de tuer et de détruire. Et le Seigneur nous appelle à être son armée pour lui. Vous êtes avec moi jusqu'ici? Amen. La première chose que je veux voir avec vous, c'est ceci. C'est Dieu désire remplir nos cœurs de son amour. Une des choses que Dieu désire de faire, on l'a lu dans le passage dans Éphésiens tout à l'heure, on va y revenir. Une des choses que Dieu veut faire, c'est remplir nos cœurs de son amour. Vous savez, le cœur, hein, le cœur, c'est la source de la vie. Le cœur, c'est vraiment là. Ce que ça se passe. La Bible nous dit, hein, dans Proverbes 4, 23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, hein, car de lui viennent les sources de la vie. Hein. » La Bible nous dit aussi, hein, Jésus a dit ceci dans Matthieu 27, hein, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est une affaire de cœur. Notre cœur, puis le pasteur Jean l'a prêché, ça ne fait pas si longtemps que ça, j'ai écouté. Notre cœur, vraiment, c'est le centre de notre personnalité. De notre volonté, de nos pensées, de nos émotions. C'est notre cœur, il dirige notre vie. La condition de notre vie dépend de la condition de notre cœur. Et notre cœur, c'est vraiment l'endroit qui détermine le genre de vie que nous allons vivre. Ça va déterminer qui nous sommes. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que notre bouche parle. C'est pourquoi Dieu veut remplir notre cœur de son amour pour que qu'est-ce qui sorte de notre bouche, ça va être l'amour de Dieu, ça va être la vérité de Dieu aussi. Amen. C'est important. Le salut de notre âme est déterminé par qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. L'apôtre Paul a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si nous acceptons de recevoir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ dans notre cœur, c'est là que nous sommes sauvés. Pour être sauvés, c'est une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire d'église, d'opinion, de croyance intellectuelle, c'est vraiment une affaire de cœur. Je sais que vous le savez, mais je vous le dis pareil. C'est dans notre cœur que nous devons reconnaître comme vrai et nécessaire la mort de Jésus pour le pardon de mes péchés, pour ma réconciliation avec Dieu. Et lorsque je reçois au plus profond de mon être, c'est comme ça que ma vie est transformée. C'est comme ça que ça change. On doit accepter les paroles de Jésus comme véridiques et s'appuyer sur lui. C'est la foi dans notre cœur, dans l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, qui change notre vie radicalement, qui ça change nos ambitions, nos valeurs, la direction de notre vie. Ça change qu'est-ce qui est important maintenant dans notre vie. Et c'est de cette façon-là qu'on commence à porter des fruits pour la gloire de Dieu, parce que l'amour de Dieu qui remplit nos cœurs est manifesté à travers de nous. Et la Bible dit que sans amour, on n'est rien, ça ne sert à rien. Dieu le fait de cette façon-là. Et ce que nous croyons au fond de notre cœur, c'est ça qui change notre vie. Et quelqu'un a dit un jour, il a dit de cette façon-là, il dit, au fond, nous faisons toujours ce que notre cœur désire. C'est vrai, c'est pourquoi il faut sonder notre cœur, puis il faut rechercher un cœur pur, plus que toute autre chose. Amen. Ça se passe dans notre cœur. Ça se passe vraiment dans notre cœur. Et chacun de nous, c'est important qu'on puisse sonder notre cœur à tous les jours. À tous les jours, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur pur. Et c'est au moment que nous avons décidé de recevoir Jésus dans notre vie, que la vie de Jésus, comme une source d'eau vive, commence à couler par le Saint-Esprit dans nos vies. Et le Seigneur, vous savez, pas seulement qu'il veut nous donner la vie éternelle en recevant dans notre cœur la vie abondante, qui veut nous bénir, il veut aussi nous transformer à son image. Et il nous transforme à travers son amour. Et une des raisons, vous savez, la Bible dit dans Romains 5:5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu désire remplir nos cœurs de son amour. Il nous transforme de cette façon-là. La deuxième chose, je vais voir avec vous, puis restez avec moi. On s'en va à quelque part. Je vous dis ça des fois. On s'en va à quelque part. La deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, c'est que Dieu désire nous équiper par la puissance de son amour. Il veut nous équiper par la puissance de son amour dans notre cœur. Parce que le cœur du croyant, comme je disais tout à l'heure, c'est l'âme la plus puissante dans les mains de Dieu pour changer notre monde. Et Dieu, il veut remplir notre cœur de son amour et il veut aussi nous équiper pour faire sa volonté. Et la façon que Jésus se prépare une armée pour apporter la vie dans ce monde ici, et ça a commencé 2000 ans passés, là, qui se prépare une armée pour apporter la vie, pour apporter la délivrance, pour apporter la paix dans le monde, pour apporter son amour dans ce monde, pour combattre le royaume de la noirceur, c'est en travaillant dans le cœur de ses enfants. Et de quelle façon est-ce que Dieu prépare nos cœurs? C'est en nous faisant connaître toujours et de plus en plus l'immensité de son amour qui nous a manifesté en Jésus-Christ. L'immensité de son amour pour nous et l'immensité de son amour pour notre monde qui a manifesté en Jésus-Christ, en donnant Jésus-Christ son Fils à la croix. Dieu veut nous équiper. Il veut nous équiper en nous faisant connaître cet amour-là dans notre cœur. Et c'est ça qui nous transforme. L'apôtre Paul, on retourne à Éphésiens, le chapitre 3, verset 16 au verset 19. Il prie, hein? Il prie ceci, hein? Il prie « afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Il prie ceci. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il prie cette prière, puis je suis convaincu que s'il serait ici aujourd'hui, il prierait la même chose pour nous autres. La parole de Dieu ne change pas. Amen. Il prierait cette prière-là. Il prierait afin qu'on puisse connaître dans nos cœurs, par la puissance du Saint-Esprit et par la foi, l'immensité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous. Il prierait qu'on puisse découvrir et voir la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et pour l'apôtre, en fait, et pour Dieu, c'est ça. C'est la chose la plus importante que nous avons besoin, le peuple de Dieu. Parce que c'est par la connaissance de la grandeur de cet amour que nous allons être fortifiés. Il dit qu'ils seront fortifiés dans leur homme intérieur, dans leur cœur. Qu'ils vont avoir le désir aussi. Ils vont avoir le désir et la force de vivre dans la volonté de Dieu, le désir de se détourner de leur mauvaise voie, qui vont être sanctifiés par la révélation de cet amour de Dieu manifesté en Christ dans leur cœur, qui vient par le Saint-Esprit, qui vont être transformés. Pas juste transformés à faire des choses différentes, mais que le cœur va être transformé et que l'amour de Dieu et que la foi et le courage de Dieu va transpirer à travers eux autres. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui produit des fruits à travers de nous par la révélation, par la puissance du Saint-Esprit qui travaille à travers de nous. Êtes-vous avec moi ce matin? Il prie ceci. Ça transforme tous nos désirs. Ça transforme nos paroles, ça transforme nos cœurs, ça transforme. De connaître l'amour de Dieu. Et ceci, vous savez, cette révélation-là, oui, ça nous donne le désir et la force, vous savez, de marcher dans l'amour pour un monde qui est méchant, puis qui est rebelle, puis qui se détourne de Dieu. Mais ça nous donne, parce que c'est le cœur de Dieu qui coule à travers notre cœur. Et je crois sincèrement, vous savez, que l'Église du Seigneur a besoin d'avoir une révélation de la grandeur de l'amour de Dieu. Et je crois que le réveil que le Seigneur veut déverser puis qui s'en vient, il va se faire de cette façon-là, qui va enflammer nos cœurs pour aller plus loin avec lui lorsque nous allons réaliser l'amour de Dieu. Puis je crois que nous pensons, des fois, je dévie de mes notes, là, mais c'est correct. Je crois que dans l'Église, parfois, nous pensons que nous connaissons l'amour de Dieu, mais nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Peut-être que nous le connaissons comme ça, Mais on a besoin de le connaître encore davantage. Dans une grande... Puis c'est ça qui va faire la différence dans l'Église et à travers l'Église. Et Dieu, oui, je crois que Dieu se prépare d'envoyer un réveil. Je crois que Dieu... Et la façon que ça va se faire, je crois, c'est une des façons que ça va se faire. C'est que par son esprit, Dieu va ouvrir nos yeux à sa grandeur. Puis ça va produire de l'amour dans nous, puis ça va produire de l'amour dans l'Église, puis ça va produire de l'amour à travers l'Église pour le monde à travers de nous. Billy Graham a dit ceci. Il dit, lorsque nous prêchons l'expiation, c'est une expiation planifiée par l'amour, fournie par l'amour, donnée par l'amour, achevée par l'amour, rendue nécessaire à cause de l'amour. Lorsque nous prêchons la résurrection de Christ, nous prêchons le miracle de l'amour. Lorsque nous prêchons le retour du Christ, nous prêchons l'accomplissement de l'amour. Oui, Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Vous savez, c'est à cause de son amour que nous sommes sauvés aujourd'hui. Et c'est par l'amour aussi que Dieu nous transforme, qu'il nous sanctifie. Et c'est aussi par l'amour que Dieu nous équipe, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Êtes-vous avec moi encore ce matin? OK. Pour la pause, vous savez, je dis, c'est par la connaissance, la révélation de cet amour que les chrétiens vont être remplis, qu'il dit dans Éphésiens, de la plénitude de Dieu et qu'ils seront équipés pour aller au-delà de leurs limites pour Jésus. C'est à ce moment-là que Dieu va pouvoir faire plus que qu'est-ce qu'il pouvait imaginer et même penser. Pour l'apôtre, c'est la révélation de cet amour-là qui va leur donner la force, le courage de marcher même devant l'opposition, la persécution, de servir et de combattre avec Dieu pour le royaume de Dieu. C'est ça. Ça va leur donner le désir de se détourner du mal, de se détourner du péché. La fin de semaine passée, je vais te donner un petit témoignage. La fin de semaine passée, à Beresford, on a eu une retraite pour les jeunes adultes. Et il y avait à peu près une soixantaine, même 60, on est jusqu'à 68, je pense qu'ils étaient là, de jeunes adultes en 18 et 35 ans qui étaient là. Et je vous dis, je vous remercie d'avoir prié. Je sais que vous avez prié parce qu'on a vécu un moment bénissant. Bénissant, vraiment, vous savez, des jeunes, vous savez, touchés de Dieu, avancés à l'autel, à quatre pattes, à genoux, en train de pleurer, puis de rechercher la présence de Dieu, puis de vouloir se repentir aussi, se détourner des mauvaises voies, puis de vouloir être un disciple de Jésus-Christ, de rechercher Dieu, vraiment, pas les choses du monde, mais on pouvait vraiment voir comment est-ce qu'ils étaient touchés par la présence du Saint-Esprit, par l'amour de Dieu qui les appelle à eux. Et je crois vraiment que le Seigneur prépare une nouvelle moisson pour son Église. Puis en passant, je crois que le Seigneur est en train de préparer des nouveaux pasteurs pour prendre soin des Églises. Merci Seigneur. Ta prière va être répondue cette vie-là, tu sais. Amen. Mais vous savez, pour l'apôtre, lorsqu'on lit ceci, vous savez, dans Éphésiens 3, oui, c'est la révélation de cet amour, vous savez, qui va donner la force. Et ils vont pouvoir faire, comme ça dit, ils vont pouvoir faire infiniment au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, penser, demander à Dieu même, parce que la connaissance de cet amour va produire dans leur cœur un courage et un désir et un amour pour Dieu, pour Jésus, pour leur prochain, pour leur communauté, pour la vérité, que Dieu va pouvoir utiliser pour sa gloire. Ça va produire une sainteté, une vraie sainteté, pas une... OK, je vais le dire. Pas une sainteté là, légaliste, là. OK, je l'ai dit. Avec, tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est beaucoup plus que ça, la sainteté. La sainteté, c'est l'amour de Dieu qui est manifesté dans nos vies pour notre prochain. C'est ça la sainteté. OK, wow. C'est ça que Dieu veut faire pour sa gloire. L'apôtre Paul, hein, lorsqu'il dit aux Corinthiens, hein, il dit « Car l'amour de Christ nous presse, nous étreint parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts, et qui est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Notre cœur a besoin d'être équipé dans l'amour de Dieu pour nous, en fait, et pour le monde autour de nous. Parce que nous allons aimer et nous allons servir et nous allons donner et nous allons être prêts de sacrifier, de mettre des choses de côté à la mesure que nous connaissons l'amour de Dieu pour nous, de qu'est-ce qu'il a été prêt à faire pour nous. Vous savez, je suis, puis je suis probablement vous aussi, je suis ébloui de l'amour de Dieu pour moi, puis en fait, pour nous, pour vous aussi, tant qu'à y être. Là, c'est, et je crois que c'est quelque chose que nous ne devrions jamais perdre de vue, parce que c'est ça qui produit. Il y a quelque chose que je veux qu'on saisisse ici. Ce n'est pas par nos efforts personnels que nous allons réussir à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, que nous allons réussir à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je le répète, ce n'est pas par nos efforts personnels que nous allons réussir d'aimer Dieu de plus en plus et notre prochain. C'est par la révélation de son amour envers nous qui va produire de l'amour pour Dieu puis de l'amour pour notre prochain. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas en se disant, là, « OK, là, faut que je sois smart, là, tu sais. Je dois aimer plus, là. Puis je dois aimer, là, mon prochain, là, mon frère puis ma sœur, là. Je dois les aimer plus, OK, tu sais. » Ce n'est, ça ne se fait pas comme ça. On a besoin de plus que ça. Si on essaie de le faire de même, on n'ira pas nulle part. On va se frustrer et on va dire, ça ne marche pas. Et probablement, vous avez déjà essayé ça, puis ça ne marche pas. Puis moi, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est plus que ça. On a besoin que Dieu agisse dans nos vies. Puis Dieu, il est prêt de le faire. Il est prêt de le faire si on le laisse faire, puis si on l'invite de venir faire son œuvre dans nous. C'est par sa révélation. Ce n'est pas en se disant que nous ne sommes pas des bons chrétiens qu'on devient des meilleurs chrétiens. Ce n'est pas en se tapant sur la tête, en se disant comment mauvais qu'on est, en se condamnant que nous allons aimer plus et devenir des meilleurs soldats de Jésus-Christ. Ce n'est pas la meilleure façon, ce n'est pas la façon que Dieu travaille. Et il y a des personnes, vous savez, il y a des personnes qui utilisent ces méthodes-là pour former des disciples de Jésus-Christ, pour taper sur la tête des autres, puis leur dire comment, en Acadie, on dit comment bad, hein? Comment, si je serais à Chédiac, je dirais comment bad, comment méchant ou comment mauvais, tu sais, comment, tu sais, il y a des gens qui utilisent cette manière-là pour dire aux autres, ah, oh, c'est vraiment pas un bon chrétien. Il y a une place, vous savez, pour la discipline, puis il y a une place pour la réprimande. Comprenez-moi bien. Puis je pense, si vous m'avez écouté prêcher là, dans les dernières années, vous savez que quand c'est le temps d'avoir une réprimande, je suis prêt de le... Je vais faire la réprimande. Amen. Vous me comprenez qu'est-ce que je veux dire ici, là? La discipline, puis il y a une place pour ça. Mais je crois, vous savez, que ce n'est pas la meilleure méthode pour former des disciples de Jésus-Christ qui vont aller jusqu'au bout pour Jésus-Christ. Il y a des limites à ce que la condamnation, la culpabilité peut produire. La personne qui va au combat par amour pour celui qui l'a sauvé, par amour pour sa famille, vous savez, va aller beaucoup plus loin dans son engagement, dans ce qu'elle est prête de risquer puis de mettre de côté, que celui qui y va simplement par culpabilité ou pour un salaire. Êtes-vous avec moi? Et Dieu veut faire de nous des soldats de Jésus-Christ qui vont aller jusqu'au bout avec lui, qui vont aller plus loin avec lui. Et c'est essentiel, l'amour de Dieu, dans nos cœurs. Dieu veut nous équiper avec son amour. La troisième chose que je veux voir avec vous ce matin est celle-ci. L'amour doit être accompagné de la vérité pour avoir de la puissance. L'amour doit être accompagné de la vérité pour avoir de la puissance. C'est vrai, vous savez, la Bible nous dit que notre cœur, l'amour produit la force dans le cœur de quelqu'un. L'amour produit la force pour quelqu'un, pour quelque chose. Vous savez, on aime nos enfants, là. Touche pas à mes enfants parce que tu vas avoir affaire à... On dit « Mama Bear », là, des fois, là, tu sais, ou... Tu sais, parce que c'est fort, l'amour, hein? Puis moi, j'ai 4 enfants, puis j'ai 3 petits-fils, puis j'en ai un autre qui s'en vient, là, cet été, là, un 4e petit-fils, tu sais. Puis j'aime mes enfants, puis quand ce que je vois du monde ou que je vois l'ennemi venir attaquer mes enfants, je peux vous dire que ça produit en moi, ça produit une sainte colère en moi. Et je prie pour mes enfants. Je prie pour mes enfants, je me tiens à la brèche pour mes enfants. À tous les jours, je ne peux pas arrêter de prier pour mes enfants. Parce que malheureusement, je sais que l'ennemi, il travaille dans leur vie. Puis essaye de les amener loin de qu'est-ce qui est bon pour lui. L'ennemi vient pour les voler, les tuer, les détruire, comme la Bible dit. Mais avant que l'ennemi va là, il va falloir qu'il passe à travers de moi. Too bad. Je vais me tenir à la brèche parce que j'aime mes enfants, puis mes petits-enfants. Puis je veux qu'ils servent le Seigneur, puis je veux qu'ils marchent dans la volonté de Dieu, parce que qu'est-ce que Dieu a pour eux, c'est qu'est-ce qui est de meilleur pour eux. Puis Dieu leur dit la vérité. L'ennemi leur dit des mensonges pour les voler. Dieu a fermé notre cœur, vous savez, en nous faisant connaître son amour en Jésus-Christ. C'est ce qu'on vient de voir ensemble. Mais ceci, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous dit pas la vérité concernant les péchés dans notre vie, concernant le mal dans notre vie, concernant qu'est-ce qu'il y a besoin de changer dans notre vie. Sinon, on ne changerait jamais, puis on resterait esclaves. On dit, Dieu nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Hein? Le dicton qui dit ceci. Et Dieu a fermé notre cœur en nous faisant connaître son amour dans la vérité. Et il y a quelque chose, vous savez, qui est en train de se produire présentement. Il y a une séduction ou un mensonge qui est en train de se produire dans notre monde présentement. Et ça se produit même parmi des églises qui se disent évangéliques, qui se disent chrétiennes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi, j'en ai entendu parler. J'ai entendu des messages qui parle sur l'amour de Dieu, mais qui ont mis de côté la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est une ruse subtile de l'ennemi qui essaye de séduire les croyants en Jésus-Christ pour les amener loin de la vérité, puis pour les garder esclaves dans le péché, dans les ténèbres, pour les traduire. c'est en train de se produire dans notre monde. Puis la raison que je vous partage ceci, c'est pour qu'on soit, on soit au courant de ça, puis que lorsque nous l'écoutons, qu'on dit « Non, ça, ça ne vient pas de Dieu. » C'est pour ça, vous savez, qu'il ne faut pas confondre la notion de l'amour sans la vérité. Il ne faut pas mélanger la notion de l'amour et la vérité. Les deux vont ensemble et ils sont nécessaires. Et Dieu, il nous aime d'un amour éternel, mais Dieu, il nous aime dans la vérité. Je vous explique un petit peu qu'est-ce que j'essaie de dire ici. C'est qu'il y a certains croyants, certains églises, même certains, j'ai triste à dire, là, mais certains prédicateurs, qui sont rendus au point de dire que parce que Dieu est amour, il nous laisse faire tout ce qu'on veut faire sans nous reprendre. Tout est permis. Puis quand que je dis tout, je dis tout. Puis vous savez qu'est-ce que je veux dire. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Certains vont dire que le Dieu que nous prêchons avec la parole de Dieu, certains vont nous reprendre pour nous dire que nous ne prêchons pas le Dieu de la Bible parce que nous prêchons le Dieu de la Bible, la parole de Dieu que nous prêchons, que Dieu a établi des restrictions, des bornes, des standards moraux, des principes, des commandements que nous devons respecter dans la VP. Certaines personnes vont dire que parce que nous prêchons des restrictions que nous retrouvons dans la Bible, que Dieu déclare péché, et qu'on devrait s'en éloigner, des gens qui disent, parce que nous disons ceci, nous ne prêchons pas le Dieu de la Bible, le Dieu de l'amour de la Bible. C'est faux. C'est faux. Dieu, il nous aime dans l'amour et il nous aime dans la vérité. Il nous aime trop pour ne pas nous dire la vérité. Parce qu'il veut nous libérer. Il y a des gens qui vont dire, c'est ça. Il y a des gens qui disent que nous devons rejeter les sentiments de conviction et de culpabilité et même de tristesse selon Dieu que la parole de Dieu pourrait apporter dans notre cœur. Ils disent que ces sentiments-là ne viennent pas de Dieu. Que c'est des sentiments qui nous fait filer mal des fois. Non, ça ne devrait pas être comme ça, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Vous comprenez? Jésus a dit ceci, vous savez. Il dit aux Juifs, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité va nous rendre libre. Et dans la vérité, il y a des choses, vous savez, dans notre nature humaine, que la parole de Dieu nous dit qu'il faut mettre de côté. Qui nous appelle à faire mourir. Et c'est par amour que Dieu nous dit de faire mourir ces choses-là. Puis Dieu, il est prêt de nous aider à faire mourir ces choses-là si on veut se détourner de ces choses-là. L'apôtre Paul dit ceci aux Colossiens. Il dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. La colère, l'irritation, la méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Oui, la Bible nous dit. La Bible nous dit de rejeter certaines choses. La Bible déclare que certaines choses sont péchés. Sont péchés. Les standards moraux dans la Bible sont là, pas pour nous priver de quoi que ce soit, mais c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne ces standards-là. Et oui, Dieu nous aime comme nous sommes, et il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Dieu veut nous libérer de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre immoralité, de notre rancune, de nos mépris des autres, de notre manque d'amour, de notre arrogance qui nous tient esclaves. Dieu veut produire de l'amour dans la vérité, dans notre vie, dans notre cœur. Il veut le faire. Et il peut le faire. C'est-tu pas merveilleux que Dieu peut le faire? Tu sais, c'est merveilleux que Dieu peut le faire. Et je vous ai déjà dit ça, ben je vous le dis encore aujourd'hui. Hein? Je viens pas trop souvent, ça fait que... Pendant longtemps, je disais, « Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à aimer, Seigneur. Aide-moi d'être un bon disciple. » Pendant longtemps, je disais, j'ai arrêté de prier ça. « Seigneur, fais de moi, Seigneur. Fais de moi quelqu'un qui va... un enfant de Dieu qui va produire des fruits pour toi, Seigneur, pour ta gloire, pour ton honneur. Je ne suis pas capable. Pas aide-moi, fais-le. » Puis le Seigneur le fait. Des fois, il vient couper des coins un petit peu, là, tu sais. Ça frotte un peu le papier sablé, là, des fois, là, à droite puis à gauche, là, tu sais. Ça. OK. C'est dans l'amour que Dieu nous corrige avec la vérité. Et aussi, vous savez, c'est dans l'amour que nous devons partager la vérité autour de nous. C'est important, vous savez. C'est par amour que Dieu nous dit la vérité, puis c'est par amour pour le monde que Dieu nous appelle à prêcher la parole de Dieu dans l'amour. Êtes-vous avec moi? Le monde a besoin d'entendre la vérité. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Hein? Vraiment, c'est vraiment, on peut voir, c'est un cri de son cœur. C'est vraiment, il dit, c'est pourquoi je t'en supplie. Et je crois que Dieu nous dit ceci aujourd'hui aussi. Je vous supplie. Devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il dit, il y a un temps qui va venir où les hommes ne supporteront plus pas la saine doctrine. Et je crois, vous savez, que nous vivons des temps comme ça. De plus en plus. Et pas seulement dans notre monde à l'extérieur, mais même dans l'Église aussi. Et c'est important que nous tenions ferme dans la vérité. C'est par amour, vous savez, pour notre monde que Dieu nous appelle à prêcher la parole de Dieu. Nous devons le faire avec amour et par amour. Êtes-vous avec moi? Et nous devons leur dire la vérité. Si le monde voit notre amour, ils seront beaucoup plus disposés à écouter qu'est-ce qu'on a à leur dire. En anglais, on dit, I don't care how much you know until I know how much you care. Hein? Je ne me soucie pas qu'est-ce que tu connais aussi longtemps que je sais que tu te soucies de moi. Puis c'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, puis je trouvais que c'était approprié pour nous. Chaque tonne dit, un homme qui est fier de dire toujours la vérité, doit d'abord s'assurer qu'il dit des vérités nécessaires pour des motifs honorables et non des vérités inutiles pour des motifs blessants. Il faut qu'on regarde à notre cœur pourquoi nous partageons, qu'est-ce que nous partageons, même si c'est la vérité. Es-tu avec moi ce matin? Je sais que l'heure avance. Hein? Quand je commence, des fois, j'ai de la misère à arrêter. Toi aussi, pasteur Jean, tu termines souvent tes sermons, des fois. Hein? Juste, il faut faire attention, vous savez, du mensonge qui se propage concernant l'amour et la vérité, le mélange qui se passe. Et juste pour... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette chose-là concernant l'éducation des enfants. Dans plusieurs années passées, vous savez, il y a eu cet enseignement-là qui disait, là, laisse faire les enfants faire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ne brime pas leur liberté, pas leur discipline, tu sais. Laisse-les faire, puis ils vont bien s'épanouir. Hein? C'est ça l'amour pour les enfants. Vous savez de quoi que je parle, hein? Cet enseignement-là? Je peux vous dire que moi, chez nous, ça ne marchait pas comme ça. On avait chez nous, j'appelle ça la spoon. Nos quatre enfants ont grandi, puis quand je dis la spoon, là, vous savez, je pense que vous savez c'est quoi, là? S'ils n'écoutaient pas, là, puis qu'ils ne respectaient pas leurs parents, puis qu'ils ne respectaient pas, ils savaient que ça se pouvait qu'il allait avoir une petite tape sur une fesse qui allait chauffer les fesses un petit peu. Mais c'était fait par amour, je crois vraiment. J'aimais trop mes enfants pour ne pas les discipliner. Et vraiment, vous savez, Dieu, c'est comme ça aussi. Puis... Je pense que je vais vous le raconter. Je l'ai peut-être déjà raconté, mais lorsque j'étais en 10e année ou en 11e année à l'école à Chibougamau, non? OK. Ils ont expérimenté quelque chose à l'école à Chibougamau. Ils ont décidé de laisser les élèves libres de choisir d'aller à leur cours ou de ne pas aller à leur cours. Sans discipline. Ils ont dit, si un élève ressent que c'est plus important qu'il va étudier à la cafétéria que d'aller à son cours, on les laisse libres de choisir par eux-mêmes. Tu sais, ils sont assez matures pour ça. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez une idée? Les élèves ont choisi. Malheureusement, moi aussi j'ai choisi. J'étais dans ce gang-là. La cafétéria était pleine tout le temps. Les élèves choisissaient d'aller à la cafétéria au lieu d'aller à leur cours. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à la cafétéria? Pensez-vous qu'ils étudiaient? Ils jouaient aux cartes. Ils jouaient à toutes sortes de jeux. Ils ont fait ça 2 ans de temps. Plus que 50%, 60% des élèves n'ont pas passé leur année. Moi, je vais vous dire, une année, j'ai passé avec 50, 50, puis 51. Par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Mais juste pour vous dire, comment est-ce que c'est important de ne pas mélanger les deux. La Bible nous dit, les blessures d'un ami prouvent son amour. Dans ce sens, le Seigneur nous aime. Et soyons prudents. Soyons prudents de ne pas tomber dans ce piège-là qui grandit dans notre monde. Notre monde a besoin, plus que toute autre chose, ce qu'il a besoin, c'est d'être aimé dans la vérité. C'est la vérité qui nous rend libres de l'esclavage du péché et c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui nous donne de l'espoir. Amen. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et je termine ce matin, encore une fois, mais là, vous savez, la route de l'amour, c'est pas toujours facile à suivre. Il y a des gens qui sont pas faciles à aimer. Hein, je vois vos sourires, là. Oui, c'est vrai. Et puis nous autres, on n'est pas facile à aimer. Et la Bible nous exhorte beaucoup à l'amour les uns pour les autres, pour notre prochain, l'amour de nos ennemis. Pour y arriver, nous avons besoin de connaître de plus en plus l'amour de Dieu pour nous et pour notre monde. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et vous savez, c'est par la connaissance de la vérité et de la gravité de nos péchés devant un Dieu saint qui est prêt à donner son Fils sur la croix que nous connaissons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas en excusant puis en rationalisant le péché, c'est en réalisant la grandeur de son amour de nous pardonner. Et c'est à travers de cette connaissance-là que Dieu veut mettre dans notre cœur qu'il va bâtir des soldats, son armée, pour combattre aujourd'hui dans notre génération. Et le commandement, vous savez, de l'amour pour notre prochain, ce n'est pas toujours facile. Puis de dire la vérité, ce n'est pas toujours facile non plus. Puis je dirais, des fois, c'est encore plus difficile. Ça dépend des personnes. Tu sais, il y a des personnes qui aiment ça, puis il y a des personnes qui... Parce que souvent, on a une tendance à l'intérieur de nous de vouloir plaire aux autres. Puis des fois, dire la vérité, ce n'est pas toujours plaisant pour les autres. Êtes-vous avec moi? Et surtout, des fois, ça peut être des personnes proches de nous, des personnes de nos familles. Puis des fois, on sait que si on dit la vérité, ça peut créer des... Mais ils ont besoin d'être aimés dans la vérité. Nos enfants, les membres de nos familles, qu'on veut qu'ils soient sauvés, ils ont besoin de voir l'amour de Dieu à travers de nous. Puis ils ont besoin de voir l'amour de Dieu à travers de nous dans la vérité. Puis des fois, ce n'est pas évident de dire la vérité. Ce n'est pas évident d'aimer. Ce n'est pas toujours évident de dire la vérité. C'est comme ça que Dieu nous appelle à marcher avec lui. Va avec moi ce matin. Est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? Il y avait cet adolescent-là, ça nous dit que un de ses amis qui il avait sa jambe était prise en dessous d'un tracteur. Il y avait un tracteur qui avait passé sur sa jambe. Puis cet ami-là, il aimait beaucoup son ami qui était mal pris. Puis finalement, il a été, puis il a été capable de lever la roue du tracteur qui pesait quasiment 3000 livres. Ça l'a levé assez pour que son ami sorte sa jambe en dessous du tracteur, vous savez. Et la morale de cette histoire, on pourrait dire, c'est que l'amour dans notre cœur que Dieu veut produire, ça va nous amener à faire l'impossible avec Dieu. Ça va nous amener des choses qu'on penserait qu'on n'est pas capable de faire. Avec l'amour, avec la grâce de Dieu, on va le lever le tracteur, nous autres aussi. C'est ça que Dieu veut faire avec son armée aujourd'hui.